Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale Semaine de la Presse. Pour cette 28e édition, le thème est « D'où vient l'information ?». C'est un thème qui est devenu très important car avec la progression d'Internet, il est devenu très facile de créer des blogs ou des sites où on peut répertorier différentes informations qui ne sont pas forcément vérifiées, ainsi des rumeurs qui enveniment les esprits. C'est quelque chose qui n'a pas l'air d'arriver souvent dans la presse écrite car il y a toujours une phase de vérification des informations. Ce qu'il n'y a pas sur Internet, c'est une chose qui est de plus en plus remplacée par la rapidité et pour le buzz. On préfère la vitesse à la qualité. Voilà, merci. Du coup, on peut se demander pourquoi est-ce que la vérité laisse place au clic ? Comment est-ce que nous pouvons vérifier les informations ? Et surtout, d'où est-ce que vient l'information ? Et tout de suite, on va commencer avec une chronique de Melvin avec la place des pubs.
Oui, alors aujourd'hui, je vais parler de la publicité dans les médias. Et ça tombe bien puisque la journée mondiale anti-pub, c'est le 25 mars. La publicité dans les médias, elle semble présente depuis toujours. Et elle devient de plus en plus imposante, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait détecter une publicité. Sur les journaux et les pages internet, elles sont gentiment encadrées dans une petite banderole. À la radio, le surjeu des acteurs et leurs phrases exagérées et peu subtiles nous préviennent. Et à la télévision, on a carrément droit à une transition accompagnée d'un jingle avant de lancer les spots publicitaires de l'expert en dentifrice ou de la voiture incroyable qui roule dans un monde où toute notion d'embouteillage a disparu. Mais, si le consommateur s'adapte, le publicitaire aussi. De grandes firmes et sites web comme Google, Facebook, Snapchat et tant d'autres prennent le luxe de traquer leurs utilisateurs et de revendre leurs données aux agences de pub. Cela donne des publicités ciblées qui utilisent vos informations personnelles et même des informations que vous ne soupçonniez pas. Par exemple, un père se serait plaint à un grand groupe de distribution d'envoyer des publicités pour femmes enceintes à sa fille de 16 ans avant de se rendre compte qu'elle était effectivement enceinte.
C'est malaisant.
Ça fait peur, d'accord, mais ça rapporte. Les recettes publicitaires de Google, c'est 60 milliards de dollars en 2013. D'autres formes de publicité sont là, heureusement. Le placement de produits, notamment, qui s'insère chez les vidéastes populaires, qui parfois oublient de mentionner leur partenariat plus ou moins volontaire avec les marques. C'est comme ça que les grands groupes s'achètent une part d'audience. Mais les médias, eux, quelle place ont-ils dans tout cela ? Comme je l'ai montré, les publicités sont de plus en plus fourbes. Certaines marques se créent leur propre place dans les médias, comme Oasis qui s'est formé une communauté autour de ses mini-feuilletons de fruits sur YouTube, son langage en fruits sur Facebook, ses jingles fruités à la télé. Et c'est cette communauté qui suit Oasis qui travaillera elle-même à la publicité de la marque en partageant toutes ses pubs déguisées, si ce n'est pas beau tout ça. Mais d'autres médias sont plus libres, la publicité n'est alors qu'un moyen de gagner de l'argent et il est malheureusement le seul que connaissent ces médias. Les serveurs de YouTube ne pourraient sûrement jamais héberger les milliers de vidéos qu'ils reçoivent chaque jour s'il n'y avait pas de publicité. Sans cela, les journaux papier, radio et télévisés ne pourraient pas payer des journalistes. Il y aurait une censure des médias et seuls les gens riches et méchants qui fument des cigares et s'habillent en costard-cravate pourraient faire vivre ces médias. Et finalement, ils ne seraient pas plus libres que ceux qui pactisent avec la pub. Des alternatives émergent, cependant, comme le financement participatif sur Tipeee, où une petite partie de la communauté devient un mécène qui fait des dons réguliers au projet de son choix. Mais cette pratique reste encore trop peu répandue et ne peut pas faire vivre un journal entier. En attendant, il ne faut pas se laisser envahir par les pubs indésirables. Alors n'hésitez pas à zapper, switcher, activer Adblock, refuser les cookies sur les sites web et surtout, n'oubliez pas d'acheter les Crisp Crops, les céréales qui crissent quand on les croque.
Merci beaucoup Melvin, merci de faire de la pub parce que sinon on ne peut pas être payé. Donc merci pour cette chronique sur les pubs et leur place dans les médias. Et maintenant on va tout de suite enchaîner avec une chronique de Léo sur les reporters de guerre.
Oui, alors un reporter de guerre est en fait un journaliste de terrain qui va au cœur des conflits pour y apporter des informations. Il peut travailler pour un média à qui il fournit des informations sur l'actualité, où il peut travailler à son propre compte et ensuite vendre ses reportages aux médias. Cette seconde possibilité est de plus en plus courante, mais représente un plus grand risque pour le reporter, puisqu'il doit voyager à son propre compte et trouver lui-même ses contacts une fois sur place, ce qui peut représenter un coût important. Une fois sur place, il doit rencontrer un fixeur qui l'accompagne partout. Le fixeur est une personne locale qui connaît parfaitement la région, ce qui permet au reporter de se rendre au plus proche des zones de combat, tout en restant en sécurité. Il peut également établir des contacts entre le reporter et les habitants de la région dans le cadre de récoltes de témoignages. Le métier de fixeur n'ayant pas de statut particulier, il est parfois difficile de trouver un fixeur fiable. En effet, il est arrivé plusieurs fois que le fixeur vende le journaliste qui l'accompagne aux forces ennemies. De plus, les fixeurs réputés s'arrachent par les correspondants du monde entier et les prix allant de 150 à 200 euros par jour minimum peuvent rapidement s'envoler. Le métier de reporter de guerre se décline sous plusieurs formes. Il existe ainsi des journalistes radio, télé, de presse écrite ou encore des photojournalistes. Ces journalistes n'ont pas tous la même méthode d'approche. Alors que les journalistes télévisés filment généralement des scènes d'une grande violence à destination des journaux télévisés dans le but de choquer, les photojournalistes, eux, capturent généralement des images représentant le quotidien des civils aux abords des zones de conflit. Ils cherchent à montrer la dure réalité de la guerre pour les populations. Les reporters audio sont quant à eux ceux qui s'exposent le plus au danger, puisque contrairement à des vidéos ou à des photographies, il est quasiment impossible d'enregistrer les sons de loin. Ce sont également ceux qui ont le plus de contact avec les populations locales à la recherche de témoignages. Le métier de reporter de guerre est un métier des plus dangereux, puisqu'il oblige le journaliste à entrer en zone de conflit pour obtenir les informations, et même, si ce n'est pas tout le temps le cas, auprès de soldats en train de combattre. Ils sont exposés aux violences faites sur les civils. Les journalistes sont les plus visés par les ennemis. En effet, en 2016, d'après Reporters sans frontières, même si le nombre de journalistes pris en otage a baissé de 15%, 52 étaient toujours retenus uniquement dans 3 pays, la Syrie, le Yémen et l'Irak. Au contraire, le nombre de journalistes détenus a augmenté de 6%. 348 journalistes étaient encore emprisonnés, dont près de 60% uniquement en Chine et en Turquie. Toujours d'après Reporters sans frontières, le nombre de journalistes tués est en baisse de 27%. Prenant des mesures de précaution toujours plus importantes, le nombre de journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions à cause du conflit est de 21. Mais il y a toujours un nombre élevé de journalistes assassinés en raison de leur profession. En 2016, 53 reporters ont été tués délibérément pour le métier qu'ils exerçaient. Les journalistes de guerre sont de moins en nombreux, car il s'agit d'un métier dangereux qui les expose à de nombreux risques, que ce soit à cause de l'ampleur des conflits ou à cause du non-respect de la liberté d'expression. Mais il reste un métier essentiel pour nous tenir au courant sur l'actualité dans les zones de tension.
Eh bien, merci beaucoup Léo pour cette chronique. Et puisqu'on est dans le thème de la guerre, c'est le moment de vous dire qu'il y a une exposition photo au CDI qui a été organisée par Madame Romanet. Les photos sont d'un jeune photographe originaire d'Alep qui s'appelle, je suis désolée si je le dis mal, Ossam Khatam. L'exposition, elle dure jusqu'au 31 mars, alors il faut aller la voir. Et c'est très important. Donc, maintenant, on quitte un peu le thème de la guerre et on va retrouver un journaliste qui travaille dans un journal papier.
Oui, donc on reçoit Jean-François Arnichan, journaliste de La Marseillaise. Bonjour.
Bonjour.
Depuis quand êtes-vous journaliste ?
Un peu plus de 20 ans.
Quelle formation est-ce que vous avez suivi pour devenir journaliste ?
Alors, la difficulté, c'est que moi, j'ai suivi une formation qui n'avait rien à voir avec le journalisme. C'est-à-dire que je n'étais pas destiné au départ à devenir journaliste. J'ai fait une formation en sociologie. Ensuite, j'ai atterri, entre guillemets, dans le journalisme.
Vous n'aviez pas forcément dans l'idée de devenir journaliste plus tard ?
C'était mon idée quand j'avais 15 ans. Ensuite, c'est sorti de ma tête. Je me suis consacré aux sciences humaines parce que c'est un domaine qui me passionne. Et je suis revenu un peu au journalisme plus tard.
Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir journaliste ?
Ben, je dirais que je travaille dans la presse écrite et ça a une importance pour moi parce que j'aime écrire. Hein, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de radio à une époque. Je faisais une émission de radio sur l'environnement à Marseille. Mais j'ai toujours été attiré par l'écriture. Déjà, quand j'avais 15 ans, je voulais être journaliste sportif parce que bon, c'est une période où le sport, le foot m'intéressait. Donc c'était mon premier rêve, si vous voulez. Je suis revenu ensuite vers le journalisme plus tard. Par souci d'écriture, par goût de l'écriture. Pour moi, c'est ça qui est déterminant, si vous voulez.
Pourquoi justement avoir choisi la Marseillaise comme journal ? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que c'est ? Parce que tout le monde ne le connaît pas forcément.
Oui, effectivement. Surtout à votre âge, bon, je pense que vous avez un rapport un peu distancié avec la presse écrite et surtout la presse quotidienne régionale. L'origine de la Marseillaise, c'est un journal qui a été créé par des résistants, hein, clandestinement en 1943, et qui a connu son premier véritable numéro officiel, si vous voulez, légal, en 1944. Alors, c'est un journal, comme beaucoup d'autres journaux français d'ailleurs, a été créé au moment où le pays a connu la libération, vous voyez. Hein.
Okay. Pourquoi l'avoir choisi, ce journal spécifiquement ?
Alors, j'ai choisi ce journal parce qu'il est assez proche de mes idées quand même. Ouais, je ne peux pas travailler dans n'importe quel journal. Longtemps, les journaux nationaux ou régionaux avaient quand même des acquaintances avec telle ou telle philosophie politique. Moi, je suis quand même plus proche de celle-là.
Qui est ?
Y a notre charte rédactionnelle dit la défense des valeurs de gauche.
D'accord. Comment est-ce que vous gardez votre objectivité journalistique ?
Alors, ça, c'est une question qui c'est marrant parce qu'elle revient chaque année. C'est quelque chose qui vous travaille, vous les jeunes, et je comprends que ça vous travaille. Hein. Surtout quand je vois le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors, moi, je vais vous faire une réponse qui n'est peut-être pas celle que vous attendez, mais pour moi, l'objectivité n'existe pas. L'objectivité au sens de neutralité, ça n'existe pas. C'est-à-dire que un journaliste est un individu, donc par définition, il est subjectif. Subjectif, ça veut dire qu'il y a un rapport avec le sujet. Alors après, l'objectivité, si c'est celle qui consiste à ne pas tordre les faits dans n'importe quel sens, évidemment qu'il faut tendre vers l'objectivité. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire qu'il y a 200 000 personnes à une manifestation quand il y en avait 1000, pour prendre un exemple un peu précis. Là, je pense à quelque chose de précis qui s'est déroulé il n'y a pas très longtemps. Donc ça, effectivement, si vous mentez sciemment, par exemple, sur la participation populaire à une manifestation, vous enfreignez l'objectivité. Ceci dit, il ne faut pas avoir peur de la subjectivité. Je pense que tout journaliste est subjectif, y compris ceux qui présentent les journaux télévisés à 20h le soir. Ils sont subjectifs, même si ils ne sont pas perçus comme tels. La différence, c'est que pour nous, qui travaillons dans un journal qui est engagé, qui a une philosophie, qui a une histoire, on est perçu comme un journal qui est engagé, etc. Mais tous les journaux le sont, plus ou moins.
Oui. Concernant toujours le métier de journaliste, comment est-ce que vous vous organisez ? Comment est-ce que vous travaillez dans ce journal ?
Alors, on travaille à partir des infos qu'on reçoit, des différents rendez-vous qu'on retient, c'est-à-dire qu'on reçoit des infos par mail de telle ou telle ville, de telle ou telle association qui va organiser un événement local, qui va nous demander si on peut venir. Et nous, on voit en fonction de notre emploi du temps, de l'effectif qu'on a, ce qu'on peut couvrir.
Est-ce que vous êtes souvent en équipe ?
Ben nous, sur Martigues, on a une agence où on n'est que deux, donc c'est assez restreint. Hein.
Comment est-ce que vous réagissez face au déferlement de fake news qui s'installe depuis quelques années ?
Ben là, je pense que c'est très grave, mais je pense que vous en êtes conscient parce que, bon, comme j'ai suivi un peu le travail préalable que vous avez fait avant l'émission, je sais que vous n'êtes pas forcément dupe, mais je pense que c'est très grave. C'est très grave parce que c'est une atteinte à la démocratie quand même. Hein. Quand on voit le président de la première puissance mondiale qui n'hésite pas à lancer une information dont tout le monde a compris qu'elle était fausse. On peut pas dire oh, bon écoutez c'est juste un truc comme ça on passe, c'est pas possible.
Et comment est-ce que vous vérifiez vos sources ?
Alors je dirais que nous on a quand même une facilité si vous voulez, c'est-à-dire que les enjeux sont moins graves. Tout à l'heure votre copain parlait des reporters de guerre, là on est vraiment dans des enjeux gravissimes hein, quand il s'agit de conflits, de guerres. Nous on n'a pas ce genre de choses à couvrir. Donc c'est quand même plus facile. Nous, on a des interlocuteurs sur le terrain, on va se rendre compte des choses, on va discuter avec les gens. Donc on a un point de vue sur la société, c'est évident, mais il y a moins de risques, vous voyez, de graves dérives, je pense en tout cas, dans la mesure où on est quand même des journalistes de terrain.
D'ailleurs, vous y allez souvent sur le terrain ?
Ah ben oui, tous les jours, quoi.
Il y a plusieurs manières de créer un article, donc vous allez vraiment sur le terrain pour récolter les informations.
Oui, oui, oui. Sauf ce qu'on appelle les... Sauf ce qu'on appelle les brèves. Par exemple, on reçoit une info d'une association qui nous dit « Nous, on va organiser tel événement tel jour. » Bon, là, on prend l'info de l'association et on la rédige dans un français correct et synthétique, vous voyez.
D'ailleurs, c'est aller sur le terrain, c'est un peu ce que vous avez fait ce matin en venant nous voir pour la réalisation de cette émission. Qu'est-ce que vous en avez pensé?
Ben, moi, j'ai un truc qui m'a frappé, c'est je pense que vous avez déjà une approche critique. Souvent, on dit les jeunes ceci, les jeunes cela, les jeunes goboraient tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas de raison de penser que les jeunes seraient forcément destinés à gober des choses qui sont fausses plus que des gens de 40 ou 50 ans. Je crois qu'il faut, encore une fois, là, il faut être très prudent avec les représentations. Parce que des fois, on a des représentations fausses de la jeunesse. Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que vous travaillez en rigolant, vous travaillez avec bonne humeur et vous avez quand même un certain recul. Parce que comme j'ai vu un peu comment ça se construisait ce matin, votre émission, il me semble que vous avez un certain recul par rapport au monde de l'information. Et ça, je pense que c'est déjà une excellente chose.
Avec la crise de la presse écrite, comment est-ce que vous pensez que la Marseillaise arrive à se maintenir ?
Voilà, c'est une question difficile parce qu'elle nous touche personnellement, parce qu'elle touche notre avenir, l'avenir d'un journal comme le nôtre. C'est-à-dire qu'il est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire vivre un journal qui soit indépendant des puissances d'argent, ce qu'on appelle les puissances d'argent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'immense majorité de la presse, que celle nationale, quotidienne, la presse magazine, les hebdomadaires, ce qu'on appelle les news magazines, sont détenus par une poignée de milliardaires. Il faut quand même dire les choses. Je m'excuse si je le dis un peu brutalement, mais c'est un peu ça. On assiste aujourd'hui à un phénomène de concentration des médias qu'on n'avait jamais connu en France, alors que le Conseil national de la Résistance en 1945 avait posé comme des principes de la démocratie la pluralité des idées, la pluralité des organes de presse, c'est-à-dire l'interdiction pour les mêmes personnes de détenir plusieurs organes de presse. Là, j'ai l'impression que l'espace démocratique se réduit. C'est-à-dire que si la pluralité de la presse se réduit, de fait, c'est l'espace démocratique qui sera bougri.
Et d'après vous, comment est-ce qu'on pourrait éviter justement que cette pluralité diminue ?
Ben écoutez, je pense qu'il y a, peut-être une piste qu'il faudrait creuser, c'est-à-dire que les aides de l'État, il y a des aides de l'État à la presse, mais il faudrait que les aides de l'État à la presse soient concentrées sur des organes de presse qui ont un véritable rôle d'animation du débat public, un véritable rôle d'information, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que de la presse people, de la presse, excusez-moi du terme, un peu de caniveau, bénéficie d'aides publiques. Ça, je pense qu'il faudrait le revoir. Et repenser globalement le système des aides à la presse.
Bien, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Peut-être que parmi le public, il y a certaines personnes qui veulent poser des questions. N'hésitez pas.
Hein. Ne soyez pas timide.
Oui, Christian de Saint-Jean. Ah. Oui, Christian de Saint-Jean pour la radio Hakuna. Une question un petit peu qui me fait souci, c'est toutes les questions que vous avez posées, Melvin, sont très intéressantes, mais je me demande si vous avez assez prêté attention aux réponses qui ont été faites. Je veux dire que les questions étaient très profondes, les réponses aussi, mais peut-être vous avez demandé quelques éléments complémentaires de développement. Merci.
Oui. Je pensais plutôt à des questions concernant, enfin, à poser aux journalistes qui étaient venus.
Eh bien, il semblerait qu'il n'y ait personne. Merci beaucoup, monsieur Arnichan, qui est un journaliste qui ne fait pas la guerre, mais qui se bat pour faire survivre son média. Et donc, maintenant, on va s'écouter une musique de Fusk, Cutie Cutie. We'll be right back. Eh bien, vous venez d'écouter Cutie Cutie de Fosk. Et maintenant, on va enchaîner avec une chronique de Melvin. La seconde, décidément, lui, on l'arrête pas.
Oui, alors, chronique sur les théories du complot. On nous ment, on nous manipule, tout est faux, ma vie n'est qu'au mensonge. On a tous en tête ces clichés qui s'imposent dans nos vies et qui ont pris une grande importance avec l'arrivée d'Internet. Internet, c'est un média à double tranchant. D'un côté, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut voir, toutes les informations sont trouvables. Et on ne nous impose pas une seule vision du monde. C'est magnifique pour la liberté et l'esprit critique. Mais le problème de sélectionner ces informations, c'est qu'on risque de ne choisir que celles qui nous intéressent. Aujourd'hui, la manipulation est partout, la publicité, les médias, les grandes entreprises et le gouvernement. On le sait, les informations ne sont pas neutres. Tous les événements sont présentés avec un point de vue. Cette vérité cachée, détournée, elle fait grandir un sentiment de paranoïa, et c'est là qu'on tombe dans les théories du complot. Ces théories, elles servent à expliquer pourquoi certaines coïncidences sont passées sous silence. Moi, je classe les théories du complot en deux catégories. Celles qui sont vraiment irrecevables et celles qui pourraient être possibles. Dans les inconcevables, on a par exemple la théorie du Coca-Cola diabolique. Parce que quand on retire le papier autour des bouteilles de Coca, qu'on le plie en deux et qu'on regarde le papier en transparence, on peut voir la tête de Satan.
Bah.
Bon, déjà, il faut faire un grand effort pour voir le diable dans le papier des bouteilles de Coca-Cola. Et ensuite, pourquoi est-ce que Coca-Cola irait cacher des indices de son pacte avec le diable dans ses papiers d'emballage ? C'est là qu'on en arrive aux Illuminati, la société secrète qui gouvernerait le monde en cachette. La preuve, leur symbole, c'est un triangle. Et des triangles, on en voit partout. Les pyramides, la trigonométrie, le symbole sur les billets américains. Bon, déjà, les Illuminati, c'est la société secrète la moins secrète de tous les temps, puisque tout le monde la connaît. Et si on voit des triangles partout, c'est peut-être parce que c'est une des formes géométriques les plus simples.
Pas si simple que ça.
Trois points, ça,
c'est bon. Pas si simple que ça.
Si. Bon, ces théories sont un petit peu idiotes et sans fondement, comme des reptiliens qui se cachent parmi les êtres humains pour les manger en cachette. Mais il y en a qui ont vraiment l'air réel, comme les théories du complot gouvernemental. Les Américains n'ont pas marché sur la Lune. La vidéo de Neil Armstrong qui pose un pas sur le sol lunaire, c'est du pipeau, parce que le drapeau qu'il plante flotte tout seul, alors qu'il n'y a pas de vent sur la Lune. Tout le monde le sait. Sauf que la théorie n'est pas plus intelligente. Hein. La vidéo aurait été tournée dans un studio d'Hollywood pour faire croire que les Américains étaient les premiers sur la Lune. Sauf que, rappel, dans un studio non plus, il n'y a pas de vent. Dommage. De plus en plus de gens contestent les faits scientifiques pour contrebalancer les JT télévisés. Ils essayent d'inviter de plus en plus souvent des experts en tout et en rien qui viennent faire leurs analyses. La théorie la plus à la mode en ce moment, c'est celle du réchauffement climatique, qui serait une invention des Chinois. C'est un fait qui a été beaucoup relayé par Donald Trump et les climato-sceptiques, ceux qui ne croient pas au réchauffement. C'est le syndrome d'une société où on se croit plus intelligent que des centaines d'experts spécialisés qui ont discuté, se sont disputés sur ce sujet pendant des jours pour aboutir à un consensus. Et un président, star de réalité, serait plus intelligent et mieux informé sur l'état de la planète ? Sûrement. Alors oui, certains faits sont passés sous silence. Oui, certains médias de masse cherchent à nous manipuler, à instaurer un climat de peur qui nous divise, qui sert les politiques et les marques, puisqu'un consommateur qui a peur est un consommateur qui achète. Mais tomber dans les théories du complot sans fondement, c'est se faire peur tout seul et pour rien. C'est s'inventer une vérité pour remplacer une autre vérité qui ne nous convient pas. Restons critiques et ne passons pas d'un extrême à un autre.
Eh bien, merci beaucoup, Melvin, pour toutes ces théories du complot. Après, si tu disparais, bah, c'est pas ma faute. C'est pas mon problème. Donc maintenant, on va directement se enchaîner avec l'interview de Radio Hakuna.
Bonjour Christina Ruoco et Christian de Saint-Jean.
Bonjour Héloïse.
Bonjour Héloïse.
Je suis très heureuse que vous nous rejoigniez. C'est agréable d'avoir une autre web radio avec nous.
Merci.
Donc pour commencer, pouvez-vous nous présenter votre web radio ?
Alors Hakuna, c'est une web radio qui est 100% on va dire Martégal, qui est née ici il y a bientôt 4 ans. C'est uniquement sur le web, comme vous l'avez dit, mais c'est une diffusion 24 heures sur 24 depuis bientôt 4 ans, avec une optique documentaire, c'est-à-dire que l'information n'est pas traitée au jour le jour. Ce sont des articles de fond, ce sont plus des interviews de personnes qui parlent de leur quotidien. C'est des vraies rencontres de personnes qui habitent ici. Et puis on peut parler de tout. Il y a un aspect créatif aussi où des personnes viennent, font leur rubrique à eux, leur sujet, et revendiquent la paternité de leur sujet. Voilà. Notamment Christian qui m'accompagne.
C'est des radios-trottoirs, c'est ça ?
Alors, il peut y avoir des radios-trottoirs, bien sûr, oui, ça marche aussi. Je donne un exemple simple, je me promène au bord du canal à Martigues, je vois un pêcheur qui est là, j'ai 5 minutes, je le branche, je lui demande qu'est-ce qu'il fait, il pêche, quel poisson il pêche, quelle est la technique de pêche, pourquoi il est là, pourquoi il n'est pas ailleurs, pourquoi il est à cette heure-ci, c'est aussi simple que ça. Ça dure 3-4 minutes, je le remercie, l'affaire, vous voyez, quelque part, s'il le permet, je dis... son nom, je lui explique comment ça fonctionne. Quelque part, il peut être reconnu par ses pairs. Quelque part, c'est une manière aussi de le mettre à l'aise s'il le souhaite. Et naturellement, de le valoriser s'il le souhaite aussi, bien sûr.
Très bien. Sur votre fiche présentation, j'ai vu qu'il y a une association qui s'appelle l'Étoile du Sud. Mais qu'est-ce exactement que cette association ?
L'Étoile des Suds.
Oui, excusez-moi.
C'est important parce que c'est l'Étoile du Sud, ça représente quelque chose, plusieurs choses même. L'Étoile des Suds, c'était une façon de parler du Sud de la France. C'est un petit clin d'œil à mes origines qui viennent du Sud de l'Amérique. Donc c'était une façon... J'ai créé une association il y a longtemps avec quelques copains. C'était pour porter des projets, en fait. Hakuna fait partie de ces projets. Ça concerne la culture, la communication, l'art aussi. Puisque toile, ça va de toile, ça pourrait être la peinture. Mais c'est notamment, là, c'est plutôt le web qui m'intéresse. Et donc, voilà, c'est une structure sociale qui porte des projets. Qui porte notamment la web radio, actuellement.
D'accord. Et... vous voyez le fonctionnement de notre web radio. Est-ce que le vote de fonctionnement est-il différent ?
Oui, je pense. Je pense que notamment la plus grosse différence, c'est le fonctionnement continu pour le moment de la web radio. On met de la musique et puis il y a des rediffusions, des interviews neuves et puis il y a des rediffusions d'interviews de manière à assurer un suivi sur 24 heures sur 24 pour l'instant. Mais c'est en évolution, tout ça. Ce sont des choses qui évoluent.
Et c'est d'autant plus intéressant, cette permanence, si vous voulez, compte tenu d'un planning qui a été établi, on peut trouver à chaque heure du jour, disons, différentes rubriques, différents types de reportages, avec de la musique, bien sûr, avec quelques lignes de force quand même, puisque il y a d'une part une chronique qui est très importante, qui a été créée par Christina.
Psychose.
Voilà.
Non, c'est Psychose.
Ah, mais je
ne l'ai pas parlé. Psychose, c'est en hôpital psychiatrique. Psychose, c'est beaucoup plus léger. C'est un petit peu un clin d'œil. J'ai l'habitude de dire, c'est un peu de psycho et beaucoup d'autres choses. C'est un fourre-tout, en fait, où vous avez des billets d'humeur et où vous avez aussi des sujets plus psychologiques, plus sérieux, mais toujours en essayant d'être un peu détendu. Sur les sujets, même si parfois il y a des coups de gueule, parce que quand on arrive à des périodes qui suivent des événements qui incitent à la haine, je ne peux pas m'empêcher de faire des billets d'humeur en forme de coups de gueule, justement parce que je ne m'inscris pas du tout dans cette démarche. Et je pense vraiment que les gens peuvent faire des efforts pour s'aimer avant de faire des efforts pour se haïr et se discriminer.
Voilà. Alors, une autre rubrique qu'il peut y avoir, c'est au fil des jours. Tout à l'heure, je vous ai cité l'exemple du pêcheur que je vois au bord de l'eau. Donc, au fil de l'eau, au fil des jours, c'est un petit peu ce que j'ai repris dessus. Ça veut dire, bien, en fonction des personnes que je rencontre, ça, c'est typique du micro-trottoir. Voilà, c'est live. Il m'est arrivé, par exemple, d'interroger des personnes aussi qui ne pouvaient pas trop parler pour différentes raisons, de faire les questions et les réponses pour elles. Par exemple, quand on vient de Ferrières pour aller sur l'île, à l'entrée du pont, il y a, comment dirais-je, deux personnages qui sont là, qui sont en bronze depuis longtemps, qui sont figés, qu'il y a un banc à côté d'eux qui sert à...
Tu parles de la statue que les touristes prennent en photo qui est
je parle de la romandeuse dessus. Il m'est arrivé de faire une interview à ce couple, naturellement en provençal. Vous pourrez l'entendre en rediffusion sur Hakuna aussi. Ça fait aussi partie des figures matégales.
Et à part Christian qui fait des radios-trottoirs, y a-t-il d'autres membres ?
Alors oui, il y a d'autres membres et on en cherche d'ailleurs. Donc je passe ma petite annonce. Comme je disais à Melvin tout à l'heure, c'est pas payé, mais bon, on a la possibilité sur Hakuna en fait de faire un travail très très personnel. Je parle par exemple notamment de Patrick Lecoq qui n'habite pas à Martigues même, mais qui ramène un travail régulièrement sur Hakuna parce que lui c'est un motard, c'est un passionné. Donc il fait une rubrique sur la moto, sur le bien vivre à moto, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut vivre sur la route en sécurité. Donc parce que lui-même fait partie de Motards en colère, il fait de la prévention, donc il parle de ça. Je parle aussi de Cédric qui est un jeune qui vit sur Martigues et Port-de-Bouc. Lui, il a fait des interviews, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeune qui fait du slam. Donc, il peut parfois faire un billet d'humeur ou faire un slam ou écrire une poésie. On s'en fiche du moment qu'il produit quelque chose et que c'est lui qui le fait. C'est un outil, c'est un espace de création.
C'est très libre, en fait.
Oui, c'est cadré, c'est-à-dire que la personne, elle amène... au maximum c'est un billet par semaine, mais ça peut être très très libre. Si une personne ne peut pas produire pendant 3 mois, c'est pas un job, ça n'a rien à voir. Mais par contre, c'est son travail qui est revendiqué. C'est-à-dire que la thématique d'aujourd'hui, c'est d'où vient l'information. Est-ce qu'on peut se poser des questions sur la qualité de l'information, sur la véracité des choses ? Chez nous, on n'a pas vraiment cette problématique parce que mamie Jeannette qui raconte que quand elle avait 20 ans, on dansait beaucoup plus le long du canal. C'est pas grave si elle dit qu'elle avait la plus belle robe. La vérité de l'histoire, c'est que Jeannette, elle va raconter sa jeunesse. Donc il n'y a pas ce côté événementiel où on a besoin de vérifier trop. De toute façon, il y a des choses qui sont déjà inscrites. On peut vérifier après, mais la problématique, elle n'est pas là. Elle est plus dans une ouverture à la création et dans une ouverture à c'est quoi vivre à Martigues aujourd'hui. Voilà. Et c'était quoi avant ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'il faudrait planter plus d'arbres pour qu'il y ait un peu plus d'ombre ? Est-ce que c'est bien d'avoir dégagé la plage à Ferrières ? Oui, c'est bien d'avoir dégagé la plage à Ferrières, je la trouve super. Voilà, c'est quoi vivre à Martigues aujourd'hui ? C'est la problématique de base. À partir de là...
Donc si on a cette problématique, tout le monde peut...
Tout le monde peut contribuer. Au départ, je disais contributif, et les gens comprenaient qu'il faut mettre de l'argent dans une tirelire. Non, c'est pas ça, contributif. Contributif, ça veut dire que vous avez un smartphone. Bon, c'est vrai qu'il faut avoir les moyens d'avoir un smartphone, mais il y a beaucoup de jeunes qui ont des smartphones aujourd'hui. Ils ont un dictaphone. Et ben, ils vont voir leur sœur, leur frère, leur tata, leur grand-mère, le copain, l'épicier. Ils peuvent faire un reportage... Très simple. Bonjour, comment tu t'appelles et tu travailles là depuis quand ? Moi, mon épicerie, elle est ouverte depuis 15 ans. Pourquoi tu fais de l'épicerie et pas autre chose ? Parce que j'adore voir les gens, j'aime le commerce, etc. Voilà. C'est un petit reportage, c'est une interview toute bête. Et on peut aussi avoir des gens qui écrivent, qui peuvent lire une poésie, tout simplement, et l'envoyer à la radio, dans un mail, en pièce jointe, tout simplement.
Et puis, un autre reflet de la vie sur Martigues, c'est la vie associative, qui est très riche sur Martigues aussi. Bon, la maison de la vie associative se charge de faire toutes les informations nécessaires concernant tout ça. Notre rôle, ce n'est pas de relayer la vie de la maison de la vie associative, c'est au contraire de rencontrer d'assaut pour voir un petit peu, non seulement le programme, mais qu'est-ce qu'elles ont de spécifique. L'intérêt, de, c'est dans la rubrique association que vous, vous pourrez trouver. Et ça peut être intéressant, parce que j'ai découvert, lors de cette journée ici, qu'il se passait beaucoup de choses au lycée Jean Lursa. Et attendez-vous peut-être à me voir revenir dans différents clubs pour voir un petit peu ce qui peut se faire. Ah ben oui, puisque je le découvre. Je pense que ça va être communiqué à l'extérieur.
Ah, je voulais juste dire une petite chose aussi. Il y a des personnes qui sont derrière, comme là. Il y a trois techniciens, ça ne se voit pas. Ça sent, enfin voilà, il y a trois techniciens derrière. Il y a même des personnes qui supervisent le déroulement de l'émission. Là, actuellement, on a une fille qui est super, Véronique, qui s'appelle Miss Morito, Miss Verveine, ça dépend des jours. Elle nous aide à planifier des choses, elle nous aide à mettre en ligne et à communiquer aussi le flyer qui est là. C'est elle qui nous a aidé à le faire, sinon on ne s'en sortait pas. Oui. Donc voilà, il y a d'autres niveaux, d'autres choses participatives qui peuvent exister sur la radio.
Très bien. Et pour en revenir à ce que disait Christian par rapport à l'association, pareil, qui peut faire partie de l'association ?
Alors, en tant que membre, on est preneur. Je veux dire, sinon, il y a un bureau. Et puis après, il suffit de contribuer pour soit être un contributeur comme ça, symbolique, disant, voilà, il y a telle personne, elle contribue. Soit dire, je veux être membre, avoir ma carte de membre. À ce moment-là, ben, on prend acte, on note sur un registre, il y a un registre qui est tenu à jour. Et voilà, à partir de telle date, la personne est considérée comme un membre.
Et comment est-ce qu'elle contribue, en fait ?
Eh ben, c'est surtout par sa voix, par une aide pratique. Voilà. Je pense que l'année dernière, on avait fixé 5 euros l'adhésion, mais c'était pour avoir un chiffre. Quoi. c'est pas trop ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de laisser une trace. Il faut savoir, bon, ça va peut-être paraître prétentieux, mais déjà, quelqu'un m'a renvoyé un écho du Japon, c'est-à-dire que sur un site japonais, il y avait un enregistrement qu'on a fait à Martigues. Des interviews qu'on fait de gens qui sont dans la rue à Martigues se retrouvent copiés au Japon. Alors, est-ce que c'est des gens qui aiment la langue française, qui nous ont attrapés comme ça par hasard ? Mais il y a une trace. C'est-à-dire que dans 20 ans, on saura ce qui s'est passé à Martigues d'une manière sonore. Voilà, on aura une trace de ça. Et toutes les initiatives de création sont les bienvenues aussi.
Bon, eh bien, merci beaucoup. En ce qui me concerne, j'ai fait le tour de mes questions. Après, est-ce que des gens dans le public, eux, ont-ils des questions ? Quelqu'un ?
Est-ce qu'il ne semblerait pas qu'il y ait des gens qui veulent poser des questions ? Eh bien, dans ce cas, merci beaucoup Christina et Christian de Radio Hanouka d'avoir fait le déplacement. Oh non, je suis désolée, je me suis trompée.
Ah et joyeuse Hanouka à tout le monde.
Je suis désolée, je suis fatiguée.
Alors, c'est Hakuna, Hakuna Matata. Oui. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Hakuna, c'est la web radio officielle du bonheur et vous avez de la chance parce que c'est à Martigues. Voilà. Oui.
Donc, je reprends.
Ah, c'est du Roi Lion que vient le nom ?
Bien sûr, bien sûr. Ah. J'ai eu une fille et elle m'a chanté ça pendant des années, donc ça m'a légèrement déformé les neurones. Non, Hakuna, oui, c'est phonétiquement. Ça commence par un A, mais phonétiquement, oui, c'est pour évoquer Hakuna Matata, parce que de mon avis, il est possible d'être très heureux à Martigues, et il y a des gens qui ont trouvé le secret du bonheur, fallait le faire savoir.
Voilà. Eh bien, je reprends parce que je me suis royalement trompée. Merci Christina et Christian de Radio Hakuna, cette fois je ne me suis pas trompée, d'avoir fait le déplacement jusqu'à notre lycée pour vous faire interviewer.
Merci Omboline avec un E.
Oui.
Merci Omboline et merci Louise aussi.
De rien.
Et du coup, tout de suite, on va s'écouter une musique de Biocratique.
Oh,
Eh bien, vous venez d'écouter une musique de biocratique. Et tout de suite, on va enchaîner avec une chronique de Maëva sur le fact-checking. Bon, et ben bonjour. Et comme tu l'as dit, donc je vais parler du fact-checking aujourd'hui. Donc, pour commencer, qu'est-ce que le fact-checking ? C'est tout d'abord en français la vérification des faits. Tout simplement,
oui,
voilà. C'est plus classe en anglais. Dans la période où nous sommes, c'est-à-dire les élections présidentielles françaises, il est primordial de discerner le vrai du faux, l'info de l'intox. On pourrait bien sûr citer l'affaire Pénélope Fillon, qui a bien sûr fait couler la cote de popularité de notre François Fillon.
Oui, c'est vrai.
À l'ère du post-vérité, de nombreuses personnes commencent à douter de la fiabilité des médias. Le mot post-vérité ou même fact-checking ont été énormément utilisés durant l'année 2016 à cause de l'élection présidentielle américaine ou même le Brexit. Le fact-checking, cette règle, fait partie de la déontologie du journalisme et a donc été remise en question. Or, au XXIe siècle, l'accès à Internet et donc aux médias se fait relativement plus rapidement. La diffusion d'informations nouvelles se fait sur nos réseaux sociaux. Pourtant, certaines de ces informations peuvent être souvent mal interprétées, voire même mensongères. Il est donc primordial de vérifier nos informations. Or, la neutralité rentre en compte. Il n'existe pas de vérité universelle qui nous dit exactement ce qui est vrai. Le but du fact-checking, c'est de nous rapporter au plus près de la réalité. Mais comment peut-on faire, me direz-vous ? De nombreuses sociétés ont créé leurs propres vérificateurs d'informations, comme Le Monde avec le décodeur. Celui-ci a fait beaucoup polémique. Facebook, même Marine Le Pen, a su créer son propre vérificateur d'infos. Il est vrai que personne ne détient cette vérité. Tout le monde, même les journalistes qui se disent eux-mêmes neutres, ne peuvent pas totalement détenir la réalité. La dite neutralité que les journalistes essaient de nous faire gober est en réalité l'opinion dominante, celui que la majorité croit. Les autres sont alors dénigrés ou passent carrément dans la catégorie subjective, donc neutre. Mais pourtant, on sait bien que le journalisme sur Internet, est cadré par la déontologie du journalisme, ou si vous avez assez de temps, vous pouvez tout simplement la trouver sur Internet ou vous amuser à la lire histoire de détendre vos connaissances sur ce sujet. Je pourrais parler des heures du fact-checking, ça pourrait nous amener à de la théorie du complot ou même qui détient nos médias. Nous sommes peut-être tout simplement des pions dans une société où notre propre réalité est dirigée.
C'est beau. Triste. C'est profond.
Ouais, si tu le dis. Maintenant, on pourrait parler du roi invétéré et incontesté de notre époque sur les fake news. Je pense que vous avez compris, je vais vous parler de notre bon Donald Trump. Le fameux, l'unique. La remise en cause des médias est intervenue beaucoup au moment des élections présidentielles, au moment où tous les médias voyaient Hillary Clinton gagnante de ces élections présidentielles. Donald Trump nous a surpris en étant grand gagnant. Vous pouvez me dire que c'est la faute au système américain, blablabla, aux grands électeurs, voire même à la stupidité de nos voisins les Américains. Peu importe, chacun a sa propre opinion sur les agissements de celui-ci ou de son programme qui dépasse l'intégrité de l'homme. Ce qui m'intéresse, c'est comment Donald Trump, ce roi de la finance, ce milliardaire qui détenait déjà un empire, ou même ce pourri de télé-réalité, voulut étendre son pouvoir à la Maison Blanche. C'est surtout comment est-il arrivé à vendre son programme, parfois mensonger, à des millions d'Américains. On pourrait penser que depuis le début de son mandat, Donald Trump n'a su que déblatérer des bêtises tous les jours, essayant tant bien que mal de gouverner à sa sauce. Heureusement que le président ne détient pas tout le pouvoir, sinon un mur serait déjà en construction. Mais Trump a su aussi nous impressionner dans sa bêtise en nous annonçant, selon sa propre vérité, je dis bien propre vérité, que le réchauffement climatique n'existait pas et que c'est un bête concept inventé par les Chinois et pour les Chinois dans le but de rendre l'industrie des Américains non compétitive. Alors oui, mais non. Il est bien prouvé par d'autres scientifiques selon des chiffres, des études ou de nombreux congrès que la situation est critique et que le président d'une des plus grandes puissances n'est pas conscient de cette situation. On peut dire que le monde a du souci à se faire. Je finirai sur cette note. Il faut se poser les bonnes questions et ne pas croire tout ce que Internet ou les réseaux sociaux peuvent nous faire croire. Il faut savoir se faire sa propre réalité sur les choses.
Eh bien, merci infiniment Maëva pour nous avoir fait réfléchir sur ce qu'est l'info, ce qu'est l'intox, et notre cher et bien-aimé Donald Trump, que tout le monde apprécie ici, évidemment. Et donc, du coup, maintenant, ce qu'on va faire...
J'aimerais d'abord rajouter quelques petites choses concernant le fact-checking, notamment. Il y a de nombreux sites qui ont été créés justement pour ce fact-checking. Et il faut faire très attention parce que si autant de monde se précipite pour créer son propre site de vérification, ça peut être en partie justement une technique de manipulation, puisque dans ce cas, ils se réservent le droit de censurer les documents qu'ils veulent et qu'ils ne considèrent pas comme vrais. Donc il faut faire très attention. Le fact-checking pourrait être sujet à du fact-checking.
C'est un peu paradoxal.
Oui.
Eh bien, merci pour ton intervention, Melvin. Tout de suite, on va faire une enquête pour vérifier ce qu'est l'info de l'intox. Une enquête très sérieuse. Donc, je vais demander aux gens du public de lever la main quand je pose une question. Et la première question, c'est qui s'est déjà fait mal ? Parce que
pas
je
moi.
Vois,
j'ai
beaucoup
mal.
De personnes sont déjà fait mal.
J'ai
qui a
mal.
Déjà pris la voiture. Beaucoup de gens ont déjà pris la voiture. Donc, la voiture, ça fait mal. Voilà. Donc, ta-ta-ta-ta-ta. Après, on peut aussi prendre qui a déjà goûté du Coca-Cola. Beaucoup de gens, encore une fois, lèvent la main. Qui a déjà eu un rhume. Beaucoup, quelques personnes lèvent la main. Donc, le Coca-Cola... Donne le rhume. Voilà, c'est aussi simple que ça. On peut créer plein d'informations dans ce genre-là. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver avec une interview, une vraie interview, après cette enquête très sérieuse et scientifique, évidemment. Et on va se retrouver avec la musique de Breakbot. I thought I had it all together. But I was led astray the day you walked away. You were the clock that was ticking in my heart. Changed my state of mind when love's so hard to find. Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray on that cloudy day. How can I go on when I'm falling apart? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
You
Eh bien, on vient de s'écouter une musique de Breakbot, Baby I'm Yours, qui veut dire bébé je suis à toi. Bon, ça on s'en fout. Maintenant, on va écouter l'interview de Christelle Jourdan.
Eh bien, bonjour, de retour.
Bonjour.
Aujourd'hui, je vais faire l'interview de Christelle Jourdan, qui est bénévole à la radio GECO et présidente de l'association Les Web Reporters de Martigues. Tout d'abord, peux-tu nous présenter Radio GECO ?
Bonjour. Alors, Radio GECO, c'est un projet qui est né au bout d'un an environ de mûre réflexion, qui est né en janvier. La radio a commencé à émettre sur la plateforme libre Radionomie, sur Internet. Nous diffusons donc depuis en continu. Ça fait 6 ans maintenant qu'on est partenaire avec le lycée Jean Lursa sur des projets scolaires comme avec le Club Presse. Et grâce à ça, le lycée nous a mis à disposition un local radio qui nous permet d'enregistrer nos émissions, de recevoir des invités. Radio GECO, c'est une radio donc, associative libre, bénévole, qui comporte actuellement une petite dizaine de bénévoles. On va à la rencontre du public local, alors pas comme à Kuna, pas seulement sur Martigues, mais sur toute la région, tout le département des Bouches-du-Rhône, et ça s'étend à la région. Le but de cette radio est vraiment de promouvoir et de parler de la culture, de ce qui se passe. On va à la rencontre des différents acteurs, que ce soit culturel au niveau du théâtre, du cinéma, de la musique.
Oui, c'est vraiment un échange avec les gens. Et quel est ton rôle au sein de la radio ?
Donc moi, en fait, au sein de la radio, alors c'est un peu complexe. À la base, donc, je suis vraiment sur la création du projet, la coordination du projet, des équipes, c'est construire des émissions, c'est tenir une grille de programmation sur la radio, la maintenir à jour, choisir, alors avec mon collaborateur et technicien Fred, choisir des musiques à diffuser et un thème à respecter. Puisqu'on n'est pas sur de la radio commerciale, mais vraiment culturelle, pour faire découvrir aussi des musiques. Aujourd'hui, je participe aussi à une émission qu'on fait en tant qu'animatrice.
D'accord. Et qui constitue l'équipe en tout un peu ? Donc, tu m'as dit une dizaine de personnes, mais du coup...
On a des bénévoles qui font 2-3 émissions, qui font des chroniques... On a Marie-Laure Grand qui participe aussi pour parler de musique. En fait, le but, c'est que chacun vienne parler de ses passions. Donc, ceux qui aiment la musique parleront de musique, ceux qui aiment le cinéma parleront de cinéma. On a un professeur aussi du lycée,
Monsieur Natio,
que vous pouvez écouter et retrouver sur l'antenne, qui parle beaucoup de littérature. Un prof de maths qui parle beaucoup de littérature.
C'est ironique.
il faut l'entendre pour le croire. On a donc Fred qui est en technique, qui nous aide sur toute la programmation et la technique pour les émissions, qui fait les mises en ligne de toutes les émissions également. Et puis des bénévoles qui viennent, qui repartent, qui j'oublie.
Je pense que tu oublies Alice et Mélissa. Mélissa qui participe à l'émission. On a une émission rock donc, avec Monsieur Natio qui s'appelle On the Rock Again. Donc voilà, on est 3 pour faire cette émission. Et Alice qui fait une rubrique culinaire, j'ai l'impression, non ?
Alice décalée. Alice qui est une
cuisinière décalée.
En fait, pour vous dire que vraiment les personnes viennent de tout horizon, pardon. Alice, par exemple, qui est à la base psychologue de métier, vient pour nous faire et des chroniques décalées et des chroniques sur le cinéma et des analyses de films. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, c'est vraiment le côté passion, mêlé travail passion ou pas du tout travail que la passion. Enfin, ouais, ça peut partir assez loin.
C'est assez sympa. Où est-ce que vous diffusez et qu'est-ce qui passe sur les ondes ? Donc des chroniques et tout ?
Donc en fait, actuellement, on diffuse sur la plateforme Radionomie, comme j'ai dit, qui est une plateforme libre qui permet de prendre en charge tout ce qui va être frais de droits SACEM pour la diffusion de musique, d'hébergement également. En termes de plateforme, je pense que notre technicien pourra en parler.
Bah, alors actuellement, on est sur Radionomie, qui est en fait, pour débuter, est génial, dans le sens où il n'y a pas du tout de frais. Et surtout, c'est une formule clé en main, vraiment gratuite, où on a donc les frais d'hébergement qui sont offerts, ainsi que les droits SACEM. En contrepartie, il y a quelques brides, on va dire, techniques. Notamment, c'est pas du tout fait pour faire une émission plein format ou pour faire plus d'un quart d'heure d'émission. Voilà, après, ça, c'est autre chose. Les plannings, on s'arrache un peu les cheveux parce que bon, c'est pas toujours bien synchro, mais bon, c'est pas grave. Mais l'avantage, c'est que vraiment, on peut commencer sur ce genre de plateforme, quitte après à aller, on va dire, sur un serveur privé. Mais pour commencer, c'est super.
D'accord. Et pourquoi faire ça bénévolement ?
Alors, bonne question. Parce que déjà, premièrement, c'est une passion. Donc, quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas le temps qu'on y passe. Et deuxièmement, même si ça évolue un jour à peut-être être une véritable radio qui puisse embaucher des personnes, ça prend du temps. Ça prend du temps pour créer, ben, je vous le dis, parce que vous faites de la radio, vous démarrez dans la web radio et vous n'êtes pas sur la diffusion en continu. Une radio, c'est pour pouvoir prétendre à des aides ou à salarier des personnes, il faut avoir un bilan. Pour avoir un bilan, il faut avoir au moins un an d'existence. Donc ça demande minimum un an de bénévolat pour pouvoir demander des aides, pour pouvoir ensuite, il y a encore au moins un an pour les obtenir. Si on veut devenir radio hertzienne, c'est pareil, il faut attendre que les demandes se concrétisent et surtout qu'une onde, qu'une fréquence se libère. Parce que maintenant, avoir une fréquence hertzienne, c'est très difficile.
Oui, c'est long et compliqué.
Très.
Donc en fait, il faut être un peu fou, hein, comme Christelle et Panda, pour se lancer dans ce projet. Je voulais juste préciser que donc, je travaille avec Christelle sur la web radio depuis quelques années déjà. Et en fait, moi, en tant que professeur documentaliste, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un média professionnel à demeure. Donc le but, c'est de développer les projets d'éducation aux médias dans l'établissement. Cette année, en plus, on a un beau local qui est suffisamment grand pour accueillir une équipe. Donc le studio profite aussi bien à Utopia qu'à GECO. Et après, pour parler un peu de la vie privée de Christelle, moi, je trouvais qu'elle avait vraiment des compétences journalistiques et de l'avoir travaillé en boulangerie et voilà, et faire des horaires difficiles et pas finalement pas faire le métier qu'elle voulait vraiment faire. Bon, ben, je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse de te lancer dans ce projet? Ce qu'elle a accepté tout en ayant conscience que, bon, ben, forcément, on n'est pas sûr que ça fonctionne, on n'est pas sûr qu'au final, il y ait des postes qui soient créés. Mais voilà,
elle
tente l'aventure, ils tentent l'aventure tous les deux et je croise les doigts pour que ça décolle. Parce que je pense que sur Martigues, justement, il y a Maritima, tout le monde le sait, c'est un média qu'on ne concurrence pas parce qu'on ne sera jamais sur leur terrain. Il y a la web radio Hakuna qui a un créneau aussi très, très précis. Je pense qu'il y a de la place pour une radio locale à Martigues, parce que Martigues est une ville très dynamique, il se passe énormément de choses, je pense que vous le savez puisque oui. Vous vivez tous à Martigues.
Pas moi. Et mais on vit dans les alentours.
Et voilà, on espère que GECO va trouver sa place sur vraiment le territoire martégal, mais pas que, puisque comme on est une web radio, bah, on peut être écouté au Japon, enfin n'importe
où. Conquérir des territoires.
Voilà.
On est déjà écouté à Montréal. Hein. C'était aussi la minute. Je suis prétentieuse. Non, on écoutait un petit peu partout.
Et en Floride.
Il faut penser, voilà aussi, c'est des contraintes. Il faut penser à se greffer sur les créneaux horaires au niveau des émissions où tout le monde peut nous écouter. D'où aussi l'intérêt des rediffusions à différents horaires. Voilà. Je pense qu'on est tous un peu fous dans ce projet, même les bénévoles qui nous rejoignent, parce que c'est quand même du temps qu'ils investissent. Notamment, je pense aussi à Alice, qui va aussi développer les partenariats. C'est un travail aussi de bénévolat. Voilà. On a envie de voir des séances de cinéma pour pouvoir en parler à la radio. Eh bien, on va développer un partenariat auprès d'un cinéma pour pouvoir avoir des séances en avant-première, pour pouvoir parler des films. Voilà. C'est le travail journalistique aussi de coordination en amont, d'aller démarcher les personnes et de créer un vrai réseau culturel où tout le monde peut s'exprimer et peut dire ce qu'il fait. Quoi.
Du coup, pour en revenir aux bénévoles, comment vous faites la radio en général pour recruter des bénévoles ?
C'est un terrain assez complexe. Alors en fait, dans un premier temps, on peut en parler sur les ondes, mais pour ça, il faut des bénévoles qui écoutent, il faut de l'audience, donc il faut des bénévoles qui déclenchent l'audience. Voilà.
C'est la logique Shadok, ça.
Voilà, tout à fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On a Internet, heureusement, donc les réseaux sociaux
font beaucoup.
Hein. Ils peuvent faire très mal, comme vous disiez, depuis le début de l'émission. Il faut apprendre à l'utiliser. Mais ça peut être aussi un très, très bon outil pour relayer ce genre d'appel au bénévolat. On a justement, surtout, voilà, ce qui est le plus concret, c'est le bouche à oreille. C'est justement par les démarches de partenariat, en allant sur le terrain voir les personnes, en disant qu'on existe simplement.
En étant présent sur certains événements. Voilà. La radio existe que depuis janvier. Donc oui, voilà, donc, ils n'ont pas eu le temps d'aller sur le terrain.
Il faut le temps de se développer.
Voilà, exactement. Aller sur le terrain pour se présenter, pour que les gens vous identifient humainement aussi. Parce que les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que finalement, ça avait une certaine limite, puisque tant que... Et heureusement, d'ailleurs,
y a pas de lien
on ne remplace pas c'est l'humain. Voilà, il faut une rencontre humaine à un moment donné, c'est évident.
C'est arrivé qu'on rencontre, qu'on ait des contacts pour des demandes de bénévolat par Internet. On a rencontré ensuite les personnes, bon feeling, autour d'un café. Et ensuite, elles ont rejoint la radio. C'est ce qui s'est passé pour Alice, par exemple.
Ah bah. Par rapport aux choses bonnes ou mauvaises, en fait, tout média est bon. C'est ce qu'on en fait qui peut être bon ou mauvais. Voilà.
Oui, c'est,
très belle citation.
C'est un outil, voilà, c'est un outil. Donc.
On va finir sur une question. Des projets et quel avenir pour la radio GECO?
Alors des projets comme je t'ai dit sur le long terme, vraiment de développer, d'arriver à en faire une véritable radio, ça c'est pour le long terme. Sur le court terme, c'est vraiment voilà, aller à la rencontre des acteurs culturels, développer des créneaux musicaux. Et alors ça, s'il y a des groupes locaux qui nous écoutent, je les invite à nous contacter pour développer des créneaux musicaux de musique de chez nous, quoi, pour vraiment que les gens puissent non seulement avoir du contenu original par des interviews et des sujets, mais surtout voilà, qu'ils aient aussi un lieu où pouvoir écouter de la musique qu'on ne retrouve pas ailleurs.
C'est sûr.
C'est notre projet concret, c'est celui-ci, quoi. C'est vraiment développer la musique locale et l'info locale.
Et surtout par rapport au groupe, on va dire le gros avantage, c'est que quand un groupe se développe, il est obligé un peu de faire un petit bout de presse. Ça passe par les photos, par la vidéo, ça peut être aussi de l'audio. Un passage radio, ça leur fait un petit podcast pour pouvoir mettre dans leur dossier presse. Et c'est un petit plus pro pour l'ascension, on va dire, de la reconnaissance de leur groupe.
Merci beaucoup. Avant de te dire au revoir, où est-ce qu'on peut te contacter?
Alors, vous pouvez me contacter soit à l'adresse email webreporters@gmail.com. Donc moi, c'est Christelle. Soit sur mon téléphone directement, donc au 06 17 05 83 47. Tout le monde connaît mon numéro, c'est super, merci.
De rien.
Je te fais un peu de suivant. C'est gentil. Sinon aussi, donc, sur la page Facebook de Radio GECO, vous pouvez aussi retrouver le player pour nous écouter et surtout nous rejoindre. Nous, on continue de toute façon à travailler avec l'association, avec vous, sur les projets médias scolaires, comme disait Marie-Laure Grand. On est vraiment aussi au lycée dans l'optique de développer ces projets-là. Quand tu parles de l'avenir, voilà, c'est...
Oui,
c'est
bah, justement, je voulais préciser deux choses. Donc GECO, on va préciser que ça s'écrit G-E-2-K-O, voilà, pour la page Facebook. Quant au fait que GECO soit au lycée Jean Lursa, j'aimerais que les collègues, les élèves, la communauté scolaire de Lursa en profitent plus. Il y a un studio à disponibilité, il y a des projets à monter avec l'équipe de GECO. Et si ça a été possible, il faut quand même le dire, on peut remercier la direction qui nous a reçus, qui a compris l'idée du projet, qui a trouvé ça plutôt bien. Mmh. Et donc qui a accepté qu'une association s'installe dans les locaux du lycée, ce qui n'existe pas vraiment dans d'autres établissements. Donc je trouve ça, voilà, je voulais quand même les remercier.
Et donc, pour finir de te répondre sur l'évolution des projets, voilà, donc le développement des projets scolaires, je voulais surtout vous féliciter parce que j'ai vraiment vu l'évolution cette année avec vous de ce projet scolaire. Et je suis vraiment contente d'être sur place pour pouvoir vous voir au quotidien presque et voir vos progrès. Bravo.
Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Radio GECO, d'être...
Il ne faut pas trop leur dire, parce qu'après, ils vont se reposer pour la prochaine émission.
Déjà, ça au débriefing.
Jamais.
Eh bien, on a eu l'interview de Radio GECO, donc beaucoup des membres assez importants, quand même.
Beaucoup d'émotions.
Beaucoup d'émotions. Et là, on se dit qu'on assiste peut-être au début d'une grande radio. Et tout de suite, on va se retrouver avec la chronique d'Héloïse.
Donc bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une chronique spéciale Semaine de la presse où je vais parler de la presse dans les écoles. Donc comme nous l'avons vu dans les précédentes chroniques, nous avons surtout vu la plupart des mauvais côtés en fait de la presse et des médias. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Et comment les médias pouvaient manipuler et désinformer les spectateurs, cela pouvant ainsi fausser leur jugement et leur opinion. Heureusement, la semaine de la presse est là pour mettre en garde les nouvelles générations de spectateurs qui pourraient être victimes de manipulations et désinformations, et cela pouvant profiter à de mauvaises personnes.
Mais Héloïse, quel est le but de cette semaine ?
Eh bien, avant tout, en ce moment, il se déroule la 28e édition de la semaine de la presse, qui se déroule du 20 au 25 mars. Donc, son but, en Vuline, est d'apporter aux élèves une, si l'on peut dire, une éducation par rapport aux médias, pour qu'ils puissent comprendre leur système, apporter un jugement critique aux élèves et leur donner surtout l'envie de s'intéresser aux actualités, ce qui n'est pas le cas pour tous, mais aussi pour qu'ils puissent se forger une opinion et apprendre à penser d'eux-mêmes et ne pas se faire influencer. Donc, pour résumer, comprendre le système et le fonctionnement des médias et ses enjeux.
Mais qu'est-ce que c'est qui est mis en place ?
Eh bien, durant cette semaine, il est mis en place des activités. Donc, comme exemple d'activité, en fait, il y a des groupes scolaires qui créent des débats permettant à tout volontaire d'exprimer son opinion ou point de vue sur un sujet commun de débat, comme par exemple la découverte des radios musicales, médias et enseignement, le dessin et la presse, le rôle social. Bref, il y a plein de sujets. Calmez-vous au plateau.
Ne te laisse pas déconcentrer, Héloïse.
Continue, continue, je t'en prie.
Après, il y a aussi la réalisation par des élèves de revues de presse qui sont affichées la plupart du temps dans les CDI. Ils prennent des journaux, s'inspirent de ce qui s'y trouve et réalisent des panneaux parlant plus en profondeur de ces sujets. Ensuite, il y a même certains groupes qui participent à des concours organisés par les établissements scolaires ou même dans certains cas des éditeurs de journaux. Et il est possible de participer dans plusieurs catégories comme le meilleur dessin humoristique et caricature, les journaux scolaires, les reportages, bref, plein de catégories, ce qui peut être très enrichissant pour les élèves et les encourager. Après, il y a des choses plus basiques comme les groupes scolaires qui rédigeraient des articles, qui créeraient ou répondraient à des enquêtes, etc. Bref, tout cela, je l'espère moi personnellement, que ça ait une conséquence sur les élèves, une espèce de prise de conscience pour qu'ils réalisent qu'en fait, les médias sont omniprésents dans notre société et peuvent vraiment les influencer, ce qui n'est pas le cas de tous.
Ça a déjà une influence sur vous ?
Bah oui.
Oui.
Donc après, il y a aussi la semaine de la presse, mais tout au long de l'année, c'est-à-dire plus particulièrement, je vais vous parler des groupes tels que les web radios ou les clubs presse, car ils se développent de plus en plus justement dans les établissements scolaires. Et dans les Bouches-du-Rhône, malheureusement, il n'y a que deux web radios, qui sont la radio PEPS du lycée privé Chevreuil de Marseille et bien nous, Utopia du lycée Jean Lursa. Les académies les plus au point au niveau justement de la presse et de la web radio sont les académies de Bordeaux et d'Orléans. Et notre ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, ainsi que le ministre de l'Éducation, ça, ils ont bien compris que c'était très important de plus développer les web radios et le club presse. Donc ils ont formulé le souhait qu'il y ait dans chaque établissement au moins un média d'information. Et ça va être mis en place grâce à la nouvelle mesure dans la réforme des collèges où a été introduit l'EMI, éducation aux médias et information, ce qui nous prouve encore une fois que la place que prend les médias dans notre société. Mais le rôle de donner aux élèves cette éducation aux médias se fera dans chaque matière tout au long de l'année. Et non par les professeurs documentalistes qui, eux, en ont les compétences, mais sera là en compliment.
Je te remercie, Héloïse. J'en profite pour ajouter un détail. C'est qu'en fait, cette volonté est venue d'un drame. C'est suite aux attentats à Charlie Hebdo que le ministère a vraiment mis le paquet sur l'éducation aux médias à l'école. Donc, comme tu l'as très bien dit, dans la réforme du collège, il est prévu maintenant une éducation aux médias d'information, Bon, ben, je prêche un peu pour ma paroisse. Voilà, les professeurs documentalistes, finalement, ne seront pas en charge de cette éducation, ce qui est dommage parce qu'on a un CAPES qui concerne les sciences de l'information et on a tous plus ou moins des projets médias dans les établissements. Donc, on va être en collaboration, comme on l'est déjà, d'ailleurs, avec nos collègues. Je tiens à préciser, d'ailleurs, cette année que j'ai travaillé avec une collègue de SES. Donc, pourquoi il y a l'Expo Syrie ? C'est parce qu'on travaille dans le cadre de l'EMC avec les terminales ES sur les migrants. Et j'espère que ces projets vont se développer, mais petit regret par rapport à notre profession. Voilà, ça aurait été bien qu'on ait un peu plus de responsabilité dans cette éducation.
Merci. Donc pour finir avec ma chronique et rester sur la web radio, je voulais poser des questions à mes chers amis de la radio Utopia. Parce que oui, en fait, l'année prochaine, beaucoup d'entre eux vont partir.
Ceux qui auront le bac, RIP. Ceux qui auront le bac.
Donc on sera beaucoup moins nombreux et en fait c'est ça, il faudrait qu'on ait de nouveaux arrivants. Donc,
on s'y prend tôt cette année. Pour ouais.
non, voilà.
Dès le mois de mars, on s'y met.
Allez, voilà. Rejoignez-nous.
Donc pour
elle
ce
part
faire,
en bline, voilà. C'est pas grave.
Je vais vous poser des questions pour en même temps faire découvrir la web radio aux gens qui sont là, qui... nous
sont
écoute.
Pas très nombreux, mais
ils sont pas présente. Beaucoup, mais c'est pas grave, voilà.
Il y a du public, il y a du public, il y a des gens.
Il y a 4 personnes.
Ils font semblant d'étudier, mais je suis sûr qu'ils sont très 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 intéressés.
Ouais,
faut pas chaud. Faire genre comme ça.
Allez, vas-y, Héloïse. Donc, question à Maëva et à Melvin alors.
Oui.
Et même
Ombeline
aussi. Bien sûr.
Non, moi je suis pas là.
Si. Bah, donc vous trois, pourquoi vous êtes venus vous dans la web radio en fait?
J'ai vu la lumière, je suis rentrée.
J'ai déjà eu cette
réponse.
La porte,
elle était ouverte. Non, vraiment, moi, si je suis venue à la radio, c'est parce que j'ai vu Madame Grand est venue dans ma classe en seconde pour recruter. Et après, j'ai vu des affiches et je me suis dit, oh tiens, ça m'a l'air sympa. Et si j'essayais ?
On dirait une secte.
Et je suis rentrée, on n'a plus voulu que je parte. Bon, voilà, je t'ai dit une secte.
Non, moi, en vrai, c'est pareil, on était en cours. Et Marie-Laure est venue et elle nous a expliqué le concept de la radio et j'ai dit « Oh tiens, Héloïse, si on allait à la radio !»
J'ai été traînée de force. Hein.
En vrai, elle était traînée de force, mais maintenant elle est bien contente. Est bien. Hein.
Et oui, toi, Melvin,
enfin, on n'a pas le choix. Hein.
C'est comme la prison, on s'y fait.
Moi, en fait, c'est...
quatre murs et des barres.
Au collège, je faisais partie du club lecture de mon collège. Et dans ce cadre-là, on était venu au lycée Jean Lursa pour une présentation de livre. Et du coup, j'avais découvert le club radio qui en avait un. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Du coup, je me suis dit que j'irais y faire un tour et ça m'a plu.
Trois ans plus tard, toujours là.
Parce que je tiens à préciser qu'une fois que les élèves franchissent la porte du local, je ne les lâche plus.
La lumière.
Je les garde 3 ans.
Non, on cherche vos prénoms, on cherche vos adresses et on ne vous laisse
voilà,
plus jamais partir.
Après, on vous
partir.
Laisse plus jamais partir. C'est ça, Utopia. Et je suis même en contact avec les anciens élèves d'Utopia, puisque Utopia a 5 ans. Et j'ai comptabilisé
bientôt
plus ou moins.
Bientôt la maternelle.
Il y a quand même une cinquantaine d'élèves qui sont passés par Utopia. Donc, pour le moment, ça... Mais c'est une utopie qui fonctionne plutôt bien, je trouve.
Petit jeu de mots.
J'ai juste une question donc, pour Maëva et Héloïse.
Oh,
je me souviens, au bout de la première semaine, qu'elles voulaient partir.
Non.
Mais Melvin...
Elles n'ont jamais voulu
bien
partir.
Pas
non,
jamais.
Faut pas dire ça veut dire qu'on n'a pas pu partir. Quoi.
Donc ma question, c'est
vous
alors
n'avez
heureuse...
jamais voulu partir.
Non, en fait, pas du tout, on veut partir.
Non, moi, je tiens à dire que Héloïse était très sexiste parce qu'elle a pas demandé, elle a pas demandé aux techniciens pourquoi ils ont rejoint. Pourquoi vous avez rejoint?
Ah oui, c'est
sexiste.
Vrai.
Sexiste. Il y a Melvin.
Ah, alors je suis un garçon. Au cas où ça se serait pas entendu.
Je voulais pas dire raciste.
Bah, moi, c'est parce que j'aime bien toucher à tout ce qui est ordinateur et que ça m'intéressait. Comme il n'y avait pas de technicien à ce moment-là, ça m'intéressait de venir aider pour permettre de faire en sorte que ça continue et qu'il n'y ait pas de problème. Et évidemment, de toucher à tout ce qui est son par rapport à mon orientation à l'époque qui n'était pas certaine.
Oui, parce que tu peux préciser que tu es en filière...
STI2D.
Voilà, STI2D. Donc j'ai pas mal d'élèves de STI2D qui s'intéressent à la technique, puisqu'il y a des rôles différents. Vous pouvez être animateur ou animatrice comme Ombeline ou Héloïse. technicien ou technicienne, puisque j'ai déjà eu des filles hein, à la technique. Il n'y a pas que les mecs à la technique.
5 minutes.
Et journaliste chronique, j'ai eu de tout, hein, c'est normal. Donc des garçons, des filles, ça y est, je commence à fatiguer, je dis n'importe quoi. Je vous laisse prendre la suite, je te laisse prendre la suite, Héloïse. T'as fini avec
questions. On n'a pas demandé à Léo.
Et on Nathan,
et Nathan,
explique-toi, ah, ouais. Nathan.
Pourquoi
je fais entendre ta voix?
Ah bah moi, bah, c'est Antonin qui m'a dit on a besoin d'un deuxième technicien et je me suis dit bah pareil, j'aime bien l'informatique et donc je me suis senti chaud pour y aller.
La technique, je remercie Panda qui vous a formé cette année et qui a fait une super formation. Donc je pense que vous êtes bien bien armé, même si vous l'écoutez pas à 100%, vous êtes quand même bien armé pour l'avenir.
Moi, je tenais quand même aussi à remercier Léo d'avoir arrêté la technique.
Oui, c'est vrai.
Merci Léo.
Parce que Léo,
merci Léo.
Léo,
je te trouve. Que t'as quelque chose à dire là-dessus ?
Je te trouve bien plus performant comme chroniqueur.
Alors, je tiens à dire que bah, déjà, je suis venu à la radio parce que j'ai suivi Melvin en fait.
Voilà. Tu m'as suivi Melvin.
Voilà. En fait, bah, je l'ai suivi, c'est tout.
Il a été dans la lumière. Donc,
en fait,
Radio Utopia, en fait, c'est la queue leu-leu, quoi.
Voilà. Ah, en fait, ah, quand voilà, j'étais à la technique, personne ne comprenait mon génie. Je suis un génie supérieur à vous.
Mais on l'a
vous
bien
ne
compris.
Comprenez pas mon talent.
Mais si, justement, on l'a bien compris.
Je vous ai quitté. Il pour arrive à enregistrer. Rejoindre un groupe qui me comprend mieux.
Voilà. Léo, rassure-moi, t'es encore là l'année prochaine?
Non, il aura pas son bac.
Peut-être.
Ah, mais si, il est en première.
J'espère. Et. J'ai pas fini de remercier, donc je remercie Christelle qui était là en début d'année pour vous former à l'exercice, aux exercices difficiles de la rédaction de chroniques, de voilà, rédiger une interview, qu'est-ce que c'est. Je rejoins Christian qui vous a dit qu'il faut faire un travail maintenant, un effort sur l'écoute pour rebondir sur les questions. Voilà, je suis d'accord avec ça. Sinon, vous avez fait une super émission aujourd'hui. Voilà.
Oui, alors juste pour vous remercier aussi. Puisque le thème, c'est quand même d'où vient l'info.
De Mamie Jeannette.
À part de Mamie Jeannette, il vient de vous, il vient de vos recherches. Voilà, j'ai vraiment vu le travail que vous avez fait aujourd'hui. J'ai vu la prise de conscience aussi, donc, puisqu'on parle des clubs presse dans les écoles. Ça sert à ça l'éducation média, ça sert à ça le MI, ça sert à prendre conscience. Aujourd'hui encore, un an après, voire deux pour certains, vous avez pris conscience que les médias appartiennent aux grandes puissances, qu'il existe de la manipulation et continuez comme ça, bravo.
Et merci, juste Christine. Une dernière chose, il y avait une question donc, qui a été largement abordée, c'est comment est-ce que vous êtes arrivé là ? La grande question, c'est surtout qu'est-ce que ça vous a apporté ? Et ça, ce sera la prochaine question à vous poser.
Et ça sera la prochaine émission, tu me permets de rebondir, du mois de mai. Alors en avril, on a une émission qui est déjà enregistrée, c'est l'émission spéciale Semaine de la Presse.
C'est une catastrophe.
Oui, je sais.
Semaine des langues.
Semaine de la Presse, Semaine des langues. Alors la Semaine des langues a lieu la première semaine d'avril. Bientôt, donc il y aura une expo au CDI et l'émission sera en écoute au CDI. Ça a été laborieux parce qu'on malheureusement on n'a pas eu nos invités le jour J, donc on a géré comme on a pu. Vous avez géré comme vous avez pu les interviews en différé. Et au mois d'avril, on sera à la salle du Grèce pour le concert humanitaire. On vous en reparlera d'ici là. Et au mois de mai, comme tous les ans, on fait une émission spéciale au revoir. Et là, ça rejoint ta question, Panda, c'est qu'est-ce que ça vous a apporté, puisqu'on interviewe les élèves de terminale qui, en général, ont leur bac, bien souvent avec mention, d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça vous a apporté d'être à la radio? Et on dit au revoir à tout le monde. Et c'est une émission bien sympathique. Voilà.
Eh bien, merci Marie-Laure, parce qu'elle m'a fait quasiment mes remerciements. Mais bon,
tu peux y aller.
Je vais quand même moi-même les faire. Eh bien, je remercie tous nos invités, comme Jean-François Arnichan, Christina et Christian de Radio Hakuna. Je ne me tromperai pas une seconde fois. On a aussi Christelle et Panda qui sont venus pour se faire interviewer et pour nous aider surtout. Donc ensuite, on a tous nos amis que je ne vais pas citer. Non, c'est faux. Donc on a Melvin, on a Maëva.
Ne te trompe pas sur les noms. Non,
je vais essayer.
Ça y est.
On a Héloïse, on a Léo, on a nos techniciens Nathan et Antonin.
Et bien sûr, cette émission, vous pouvez la retrouver sur Radio GECO et le site du lycée. Voilà.
Merci pour la
suite. Si on ne dit pas où c'est qu'on a trouvé.
Bah ouais.
Voilà.
Bon, bah,
forcément,
sinon.
Ils l'ont trouvé voilà. S'ils l'écoutent. Hein.
Là, tu vois, il y a des gens qui l'écoutent.
S'ils l'écoutent, c'est qu'ils l'ont trouvé. et qui vont venir faire partie de Radio Géco, ça serait bien.
Venez, s'il vous
plaît. On recrute.
Et je tenais à remercier notre public. De l'enthousiasme.
Il y a beaucoup de monde dans la salle.
Ambeline, il faut vraiment que tu fasses des émissions pour enfants parce que tu as vraiment le don.
Ah oui,
le don de faire de l'animation pour les enfants. Tu nous as tous bien
amusés. Tous dormir à l'heure de la sieste.
Là, ce serait moi qui aurais envie de faire la sieste.
Allez.
Eh bien, peut-être. Merci à vous tous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.